La généalogie, en quelques mots, c'est quoi?
C'est la recherche de ses ancêtres, c'est la recherche de ses racines.
Beaucoup de gens partent sur cette mission, sur cet arbre généalogique, des jeunes, des moins jeunes.
Alors, beaucoup de moins jeunes, parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire sa généalogie, mais de plus en plus, depuis l'arrivée de l'informatique, beaucoup, beaucoup de jeunes.
Et
alors, ils l'abordent différemment, c'est vrai.
C'est-à-dire ?
Ils l'abordent en consommateurs, et ils vont sur des sites internet, ils piochent dedans, souvent ils ne vérifient pas, et parfois c'est pas tout à fait bien. Alors nous on est là pour les aider, pour les recadrer, et pour les encadrer plutôt, et pour leur donner les bons conseils.
On vous dit souvent pourquoi on cherche à faire un arbre généalogique ?
Toujours pour faire, c'est toujours pour rechercher ses ancêtres, pour rechercher ses racines.
Ses racines, c'est important. Hein.
Oui, oui.
C'est important de connaître son passé. Combien de temps il nous faut? Je vous disais en hors antenne, moi, j'aurais aimé faire mon arbre généalogique, mais j'ai l'impression que je manque de temps.
Alors passion quand tu nous tiens. Et tous les amateurs vous le diront, on ne compte plus son temps, et tout dépend du temps que vous avez, et puis surtout de vos ancêtres. Parce que si vos ancêtres sont tous de la même région, et ici notamment de la Lorraine, ça sera beaucoup plus facile.
Oui.
Vous avancerez beaucoup plus facilement. Il est beaucoup plus difficile de suivre ses ancêtres, alors déjà dans le reste de la France, encore que maintenant ça devient de plus en plus facile, mais aussi à l'étranger. Et là, on a aussi des conseils à donner et des relations avec certains pays, notamment, on le sait, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie.
Pourquoi vous avez commencé ? Vous avez commencé quand, vous, déjà ?
Alors moi, j'ai dû commencer tout petit, puisque mon papa était un féru d'histoire et de généalogie. Et chaque fois que nous allions dans un village ou un autre, il rencontrait telle personne, et il me disait, ah ben, un tel, c'est un cousin, un tel, c'est un grand-oncle, un tel.
Ah.
Et je pense que ça doit provenir de là. Donc moi, j'ai commencé jeune. À 30 ans, avec ma grand-mère, j'ai commencé à faire ce que j'expliquerai tout à l'heure qu'on doit faire. Et quand, après 60 ans, j'ai pris ma retraite, eh bien, je suis parti m'inscrire au Cercle Généalogique du Pays Messin.
Cercle Généalogique du Pays Messin, donc, qui est là pour aider les personnes qui démarrent. Monsieur Calba, votre vice-président, est là. C'est les mêmes raisons qui vous ont poussé à rentrer dans ce cercle ?
Presque, mais pas tout à fait. Moi, j'ai commencé il y a 48 ans de faire mes recherches généalogiques. Pardon, il y a 48 ans. Et en fait, ce qui m'intéressait à ce moment-là, j'avais 17 ans, c'est les arbres généalogiques des souverains, des rois,
ah,
etc.
Voilà, vous étiez un peu le Stéphane Bern de la région,
un
quoi.
Un peu, si vous voulez, des grands arbres généalogiques, et ça m'intéressait de reconstituer les familles. Puis un jour, ma maman a dit, mais si tu faisais plutôt celui de la famille plutôt que celui des autres.
Mais oui.
Et puis voilà, et puis c'est parti comme ça, et puis j'ai démarré comme ça à 17 ans.
Alors les conseils de base, voilà, on n'y connaît rien, on veut démarrer, c'est quoi les conseils de base?
Alors, première étape, la collecte.
D'accord.
Je crois que c'est le plus important. Il faut commencer par ça. On cherche d'abord les papiers de famille.
Oui.
On cherche les livrets de famille. Et c'est une mine d'informations. On cherche les anciennes cartes d'identité, les anciens passeports, les livrets militaires, les diplômes, les carnets scolaires, les actes notariés quand on trouve des contrats de vente, des contrats de mariage, des contrats de partage après décès. On cherche bien sûr les images de communion dans les vieux missels.
Ouais.
Eh oui, oui. Les décès aussi, les avis de décès, tout ça dans les vieux missels. Et puis on cherche aussi les photographies.
Jusqu'à quand on peut espérer remonter en faisant son arbre?
Alors là encore,
ça
dépend de votre famille. Une famille, je dirais, ordinaire, ici en Moselle, on peut remonter assez facilement jusqu'à 1650.
C'est pas mal.
Avant 1650, c'est difficile puisque à la guerre de 30 ans, tout a été brûlé. Par contre, forcément, une famille noble, on a beaucoup plus de possibilités pour remonter plus loin.
Donc voilà, la première étape, c'est la collecte. Entre parenthèses, vous me disiez en off, attention, quand on prend de notes, toujours prendre un cahier et pas des feuilles volantes.
Voilà, pas de feuilles volantes. Si on veut pas se perdre, il faut quand même être assez pragmatique. Et un cahier permet de retrouver ce qu'on a cherché.
Voilà, à l'ancienne, comme à l'école, on prend un petit cahier qui nous aide aujourd'hui à faire notre arbre généalogique. Alors, Georges, on disait, la première étape, c'est vraiment la collecte. Donc, on récupère les documents officiels, le livret de famille, les actes de naissance, mais aussi les photographies.
Oui, les photographies. Et pour trouver tout ça, il n'y a qu'une solution, il faut interroger la famille.
Ah, voilà.
Il faut voir les anciens. C'est eux qui pourront le mieux vous renseigner. Il faut, à l'occasion d'une après-midi, d'un petit café, d'un repas de famille, leur faire ouvrir les tiroirs et sortir les documents. Alors, bon, maintenant, on a tous des smartphones. On sait tous faire des photos avec les smartphones. On laisse les originaux dans le tiroir du grand-père et de la grand-mère, et on fait les photos, et comme ça, tout le monde est content. On a récupéré ce dont on avait besoin, et le grand-père et la grand-mère, ils ont gardé leurs originaux.
On fait quoi de ces documents? Qu'est-ce qu'on a comme information?
Alors, on a, par exemple, dans le livret de famille, c'est le document le plus intéressant, puisque dans un livret de famille, en gros, trois générations sont réunies sur le même document.
D'accord.
Donc on va chercher les dates de naissance, les dates de mariage, les dates de décès et les lieux. Donc ça va permettre déjà de créer sa généalogie, ses parents et ses grands-parents. Donc je crois que c'est déjà quelque chose d'important. Sur la carte d'identité, on va souvent trouver la photo,
oui.
Intéressant, la taille, des signes particuliers. Des domiciles, on saura qu'en 1953, les parents ou les grands-parents habitaient à tel endroit, à telle rue.
Et si on n'a pas tous ces documents, si on ne les retrouve pas, on peut chercher des choses dans les administrations?
Alors on peut chercher, dans les mairies, bien sûr. Alors je voulais juste encore dire aussi le livret militaire, il ne faut pas le négliger, oui. Bien entendu. Et on peut demander les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès, sous certaines conditions, dans les mairies.
Il suffit quoi, d'écrire?
Alors, il faut écrire, mais maintenant, la plupart des mairies ont prévu ça par Internet. Et on va sur le site de la mairie, on fait la demande. Alors, il y a certaines conditions, on peut pas tout avoir. La loi a prévu un minimum de 75 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de remonter le plus loin possible au niveau des grands-parents. 75 ans, c'est pour protéger la vie privée. Mmh. Et à partir de là, on a certaines possibilités pour obtenir les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès.
Il y a des conditions, c'est-à-dire qu'on peut juste demander ou il faut fournir des preuves?
Alors, on peut, si on veut, un acte intégral, c'est-à-dire la photo de l'acte complète de l'acte de naissance. Et là, il va falloir donner son identité, il va falloir être membre de la famille. Mais si on demande simplement l'acte de naissance sans filiation, on va avoir un extrait et on peut déjà obtenir certains renseignements.
D'accord, donc ça fait quand même une belle base. Hein,
oui, ça fait déjà une belle base.
Avec tout ce qu'on a pu récolter, vous, en cherchant par-ci, par-là, vous avez déjà, Jean-Louis, Georges, découvert des situations extraordinaires du passé, cocasses. On fait quoi comme découverte originale?
Alors on fait parfois des découvertes qu'on n'attend pas. Et un exemple précis, en cherchant dans une famille noble qui s'était installée à l'île de la Réunion, mais qui, bien entendu, au fil du temps, s'était fondue dans la population, on est remonté jusqu'à le premier ascendant en France, dans l'Aisne, dont on a trouvé la trace où il était ami avec Henri IV, et dont on a fini par se rendre compte que c'était un ancien comte d'Armagnac qui, pour des raisons historiques, avait changé de nom et s'était installé à Fessouche à La Réunion, à Fessouche à Madagascar, est venu ensuite à Paris et est venu ensuite en Lorraine.
Voilà, beaucoup de choses à découvrir en faisant la généalogie, sa généalogie ou celle des autres,
ou
justement.
Celle des autres,
on vous retrouve dans quelques instants, Georges François, président du sac généalogique du Pays Messin, et son vice-président Jean-Louis Calba. Rechercher des documents, c'est bien, mais après, que va-t-on faire de ces documents? Vous allons en compagnie de Georges François, président du Cercle Généalogique du Pays Messin et de son vice-président Jean-Louis Calba. Alors, on parlait des étapes pour faire son arbre généalogique. Une fois qu'on a interrogé la famille, qu'on a récupéré des documents dans les maisons, des photos, qu'on a appelé les mairies pour avoir d'autres documents officiels, on se dirige vers qui?
On peut se diriger vers les archives départementales.
D'accord. Pour y récupérer quoi, par
Alors,
exemple
On y récupère aussi les actes d'état civil avant et après 1793. On y récupère les recensements. On y trouve le cadastre, la conservation des hypothèques pour connaître les maisons. On y trouve des actes de vente. On y trouve les successions. Les archives religieuses, judiciaires.
Et tout ça, c'est à notre disposition. Il faut faire des demandes.
Alors on va sur place et on s'adresse au président de salle et on a la possibilité d'avoir un certain nombre de documents à consulter, 3 le matin, 3 l'après-midi.
D'accord.
Les présidents de salle sont là pour nous aider aussi, bien entendu. Une particularité, à Metz, les archives municipales.
Oui, c'est ce que Jean-Louis, vous nous disiez en off. Metz avait une particularité à l'époque.
Oui, parce que c'est une ville impériale qui avait ses propres institutions au Moyen-Âge. Et au moins jusqu'en 1552, comme elle était indépendante. À partir de ce moment-là, par contre, l'occupation de Metz de 1552 par les Français, petit à petit, l'assimilation. Mais néanmoins, Metz, régnait sur un ensemble de territoires autour d'elle, on va dire grosso modo l'arrondissement de Metz, hein, plus
D'accord.
ou moins, hein, de Vigy à Verny, par exemple, ou Lorimardini. Et donc, en fait, ces villages-là n'avaient pas de notaire à eux. Et donc, D'accord. la plupart du temps, il fallait aller à Metz, passer, et c'est, alors, pas les notaires, mais en tout cas la justice, par exemple, les documents anciens sont conservés jusqu'en 1636 aux archives municipales de Metz. Et elles concernent tout le pays messin, par
donc
exemple.
Donc c'est à savoir. Bâtiment à part, les archives
oui.
départementales.
Oui, c'est au récollet.
Qu'il y a quelque chose que j'ignorais. On peut aussi consulter des dossiers médicaux.
On peut consulter des dossiers médicaux. Alors, je crois qu'il faut 50 ans pour pouvoir consulter les dossiers médicaux.
Ce qui est normal,
oui.
oui.
Donc, quand ils sont déposés, bien
quand
entendu.
Ils sont à l'époque, ils ont décidé de les
voilà.
déposer.
Oui, oui.
D'accord.
Oui, tous les...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut décider de déposer ces dossiers
Non, c'est pas nous qui décidons
ah, oui.
de déposer notre dossier. Ce sont les hôpitaux qui sont obligés
D'accord.
de déposer aux archives départementales. De même que les notaires sont obligés de déposer aux archives départementales.
Donc une fois que j'ai tous mes documents, j'ai tout, j'ai les photos, j'ai les documents, j'en fais quoi? Je les garde dans mon cahier?
Alors on les garde pas, on les organise, on les classe,
oui.
et on présente le fruit de son travail.
À qui? Comment?
À qui? À sa famille, à ses amis. Et... Alors, une petite parenthèse, avant l'an 2000, tout ça se faisait sur des feuilles de papier A4, A3, des petits cartons, oui. et des collages à la main. Depuis l'an 2000, c'est de l'informatique.
Eh oui.
Et la plupart des généalogistes aujourd'hui, même les anciens, se sont mis à l'informatique. Et les tout premiers qui se sont mis à l'informatique, ils viennent de loin. Ils viennent de Salt Lake City. Ce mmh. sont les Mormons. Mmh. Et les Mormons, ils ont voulu baptiser par procuration tous leurs ancêtres. Et pour ce faire, ils ont créé une base de données mondiale.
D'accord.
Et cette base de données mondiale, elle est reconnue maintenant mondialement. C'est la création d'une norme informatique que l'on appelle le GEDCOM.
D'accord.
Et donc, aujourd'hui, on travaille tous en informatique. Tous les logiciels sont faits à partir de cette base.
Voilà, on rentre toutes nos données, finalement, dans les logiciels. Logiciels qu'au Centre généalogique du Pays Messin, vous avez ces logiciels. Vous pouvez nous aider.
Il y a deux types. Il y a des logiciels. Alors, les logiciels, c'est personnel. On les a sur son propre ordinateur. Et puis, il y a les sites Internet. Les logiciels, il y a catégorie gratuite. On peut citer Ancestris, Ancestrologie et MyFamilySpring. Et il y a en France deux principaux logiciels payants, c'est Eredis et Généatique. Ils apportent plus que les gratuits, bien entendu. Mais pour débuter, les logiciels gratuits sont très bien.
Voilà.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ce sont les sites Internet. On peut aller sur des sites Internet que tout le monde connaît, Philae, Généanet, MyHeritage et
Qui vont Ancestry, nous aider à classer.
Qui vont nous aider à rechercher et qui ont aussi la possibilité de nous aider à faire un arbre généalogique.
Oui, ce matin, pour bien faire son arbre généalogique, voilà, on a récolté tous les documents, on a interrogé sa famille, on s'est dirigé vers vous, vous nous avez prêté vos logiciels pour qu'on puisse rentrer toutes nos petites données. Une fois qu'on a fait tout ça, on présente comment un arbre, un tableau, comment on fait pour présenter ça à ses proches, pour dire voilà le fruit de mon travail ?
Alors c'est là tout l'intérêt des logiciels de généalogie. C'est-à-dire qu'ils vont vous aider, puisque c'est automatisé, à faire un arbre. Alors dans un premier temps, ce qu'on recherche, on s'intéresse bien sûr d'abord à ses ancêtres. Mmh. Et là, c'est l'arbre de généalogie ascendante. On va retrouver les parents, père, mère, les grands-parents, les oncles, tantes, ou beaucoup plus on va remonter. Mmh. Mais petit à petit, quand on a la passion, on va chercher à trouver les frères, les sœurs,
on va sur les côtés,
les descendants, voilà. De côté, et on descend. Mmh. Et là, c'est la généalogie descendante. Donc, ces deux types d'arbres généalogiques, ça crée déjà pas mal de travail. Ces arbres, on peut les avoir complets, c'est-à-dire qu'ils recensent tous les ascendants ou tous les descendants d'une personne. On peut avoir deux autres types d'arbres, agnatiques. C'est, ils ne prennent en compte que les hommes. On remonte une généalogie uniquement masculine. Ah,
en fait, on fait ce qu'on veut, quoi, finalement.
On fait ce qu'on veut. On demande au logiciel
ce qu'on veut.
Et on a la possibilité, effectivement, ensuite, d'imprimer, de publier. On peut créer son propre blog. On peut imprimer ses arbres. Très facile, on les sort sur une clé USB. On va chez un imprimeur ou dans un magasin qui peut faire ce genre d'impression. On peut faire de très beaux tableaux. Généralement, les logiciels proposent des tableaux avec des vrais arbres.
Et juste là, justement, vous êtes là pour nous aider, hein, le cercle généalogique du pays Messin. On vient vous voir, vous êtes au sein du bâtiment des archives départementales.
Voilà, nous sommes au bâtiment des archives départementales à Saint-Julien. Nous avons une permanence tous les mercredis de 8h30 le matin jusqu'à 16h30. Et c'est notre rôle d'entraide, d'aider, de conseiller les personnes qui viennent nous voir.
Georges-François, président du Cercle généalogique du pays Messin, son vice-président Jean-Louis Calbat, merci beaucoup.